Go, on tourne. Ça filme. Go, ça tourne.
Dans le bateau,
ça
pour aller où?
La terre.
Go, ah, non.
Je rêve.
C'est bon, ça tourne.
Ouais. I take orders from just one person, me.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ça tourne, votre nouvelle émission qui parle de cinéma, d'actualité et de cinéma parce que vraiment on aime ça. Derrière les vitres et comme un poisson dans la régie, Lucas, notre technicien aquatique préféré, sans qui cette émission ne pourrait exister. Salut Lucas ! Salut de loin, oui évidemment, parce que non, un poisson ça parle pas. Et à l'autre bout de ce plateau, à une distance raisonnable d'un mètre réglementaire, celle qui m'accompagnera chaque vendredi de sa voix pétillante et de sa chronique aux champignons, Élise. Bonjour Élise, comment ça va ?
Ça va, et toi Madeleine ?
Écoute, ça va, hein, c'est la toute première, donc le crash test. De quoi tu nous parles pour cette première chronique de première émission de Ça tourne ?
Alors, je vous ai préparé une petite chronique nippone qui va parler de Kiki, la petite sorcière, un de mes films préférés d'Hayao Miyazaki.
Je crois que c'est le film préféré de ma petite sœur aussi. Mais moi, j'ai jamais réussi à voir... Il y en a trop, ils sont trop nombreux. Je sais pas combien il y en a. J'ai hâte. En attendant, on va faire un petit tour de l'actualité cinématographique qui est soit un petit peu en pause, mais quand même, il se passe des choses. Donc je te propose un truc, on va faire un clou d'actu, tu sais ce que c'est ?
Non, donc, raconte-moi.
Un clou d'actu, c'est un quiz d'actualité, mais en version clou, c'est-à-dire compact.
D'accord.
Oh, de dessert, c'est une bûche ?
Non, c'est clou.
Ah non.
Top. Alors, quelle est la particularité du personnage qui tient le premier rôle d'un film des studios Pixar qui vient de sortir ? C'est un petit court-métrage de 9 minutes et qui s'appelle Out.
Le personnage est gay.
Oh, trop forte ! Magnifique. Ah ! Je pensais pas que tu le saurais. Bon, eh bien, ça nous fait un point. Tu prends des points d'avance pour le jeu de la fin. Attention, deuxième question. Question piège. De quoi cause Fire, entre parenthèses, Posar, un court-métrage de 10 minutes réalisé par David Lynch en 2015 et qui a été mis sur la plateforme YouTube récemment ?
Je sais pas.
Ah.
De feu ?
C'était une question piège. Eh bien non, en fait, l'intrigue du court-métrage est plutôt mystérieuse. On va dire que c'est un patchwork d'images morbides qui défilent à l'écran de manière hypnotique. Et c'est des créatures inquiétantes qui flottent dans un décor figé, qui s'embrasent avec des fantômes qui pleurent et des paysages... très bizarre.
Ton
voilà, du coup, non, franchement, c'est intéressant à regarder, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas saisi le propos.
Mais donc, David Lynch, j'ai jamais trop réussi.
Oui, il faut savoir que David Lynch a occupé son confinement en faisant des bulletins météo.
Good morning. It's May 14, 2020, and it's a Thursday. Here in LA, beautiful blue skies. One or two little clouds floating by, sunny, around 61, 62 degrees Fahrenheit, 16 degrees Celsius. Have a wonderful day.
Et donc oui, il s'amuse à faire la météo, c'est hyper drôle, ça dure 40 secondes avec son air de pas y toucher.
D'accord.
Ouais, c'est une curiosité à découvrir. Troisième question. Qu'est-ce que le festival Wear One ?
Je sais pas.
Du coup, le festival Wear One est un événement gratuit hébergé par YouTube, donc qui se déroule du 29 mai au 7 juin et qui propose de remplacer un petit peu les festivals qui sont annulés à cause de la pandémie, donc à savoir le festival de Cannes, de Venise, de Berlin, de Toronto et aussi d'Annecy. Voilà, donc sur la plateforme, vous pourrez voir des films qui devaient être présentés pendant ces festivals. Alors, il y en aura beaucoup moins que prévu et c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Vous pouvez aller voir sur la plateforme du site, il y a la programmation. C'est un peu tristouné, mais bon, en attendant, ça compense et ça fait un peu la blague, on va dire. Et pour finir, dernière question, attention. Quel a été le film le plus vu en streaming en France pendant le confinement ?
Alors, il me semble que c'est le film turc qui est passé sur Netflix, mais je pourrais pas du tout te redire le titre.
Exactement. Et alors, moi, je vais pas m'y essayer non plus, sincèrement, c'était... C'est
Kogustaki
Muxizé.
Muxizé.
Ouais, c'est ça. Bon, c'est d'après un sondage qui a été réalisé par NPA Conseil et Harris Interactive, et c'était commandé par Écran Total. Bon, en soi, ça va, on n'est pas mauvaise en actualité, je trouve. Et pour laisser poser un peu vos neurones, on va prendre le temps d'écouter la Carioca, hein, en souvenir du fameux festival de Cannes dont on n'aura pas droit, voilà, dont on n'aura pas droit cette année, exactement.
Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas.
Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça.
You. Dansons la carioca, c'est bien, fais-y tous comme moi. Youpi, avec la carioca, tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir.
Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha.
Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée.
Youpi! Dansons la carioca, c'est bien, fais-y tous comme moi. Youpi, avec la carioca, tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Youhoupi, dansons la carioca, c'est bien, fais-y tous comme moi. Oh oui, youpi, dansons la carioca, tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir.
Avis à vous qui nous rejoignez sur Radio Couleur Chartreuse, vous êtes dans Ça Tourne, on parle de cinéma. Et à l'instant, c'était la musique de La Cité de la Peur, la Carioca. Donc en souvenir du Festival de Cannes, qu'on n'aura pas cette année. Du coup, pas de Festival de Cannes. Est-ce que ça va avoir des répercussions? Est-ce que ça va te manquer, Élise?
Moi, c'est vrai que je suis toujours assez friande des festivals, même des Césars, de tout ce qui se passe autour du cinéma. Et j'aime bien quand même regarder un peu les nommés, qui sont les réalisateurs, les acteurs présents, tout ça. Donc oui, ça va me manquer, je pense.
Ouais, c'est vrai qu'il y a peu de festivals. Enfin, c'est le festival français par excellence.
Exactement.
Ça fait plaisir d'avoir des acteurs français. Après, c'est vrai que les films, en général, moi, quand je les vois, je me sens très, très incultivée. je les saisis pas.
Il y en a, oui, c'est vrai que de premier abord, on peut trouver ça un peu inaccessible, je dirais, et parfois perché même. Mais il y en a beaucoup
que.
Il y a beaucoup de films qui sont sortis en avant-première au Festival de Cannes et que j'ai beaucoup aimé et qui sont pour le coup plus accessibles. même des comédies.
T'en as en tête ?
Eh bien, par exemple, je sais que Le Grand Bain, l'année dernière, il me semble, avait été le film de fermeture, je crois. En général, les films d'ouverture et les films de fermeture sont plus accessibles, entre guillemets, je dirais, à tout public.
Ouais, ouais, c'est pas faux. Après, je pense que pour les réalisateurs et les acteurs, tous ceux qui sont en train de se lancer et qui ont la chance d'être invités, là, eux, ça va leur manquer beaucoup, je pense.
Oui, oui, je pense, oui, parce qu'il y a la quinzaine des réalisateurs, entre autres, qui permet aux nouveaux réalisateurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, de proposer des nouveaux films.
Ouais, puis c'est un énorme bouillon de... Enfin, c'est l'occasion de parler, de rencontrer... C'est
oui,
du réseau,
de faire ses preuves, exactement. Ouais.
Donc je pense que ça va, je pense que ça va manquer. Donc on verra bien ce qui sera mis en place et si on aura un festival de Cannes retardé, peut-être, non ? On espère.
Ah, il me semble que c'est annulé, mais...
Annulé, ouais, oh, tristesse. Il me semble. Bon, en attendant, on va écouter ta chronique, du coup, tu nous parles d'un film d'animation japono-magique, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
C'est bien ça. Alors, on passe du coup au film pour enfants et même grands-enfants, avec beaucoup de poésie, d'intelligence et de fantastique. Et oui, on parle de Kiki, la petite sorcière, qui a été réalisé par Hayao Miyazaki. C'est le 5e film d'animation du réalisateur japonais, souvent comparé à Walt Disney, si on veut un homonyme
comparatif.
comparatif occidental. Ce film a été produit par le studio Ghibli, donc, et il est sorti en salle à la fin des années 1980. Une petite anecdote pour bien commencer, c'est la première fois que Miyazaki adapte un livre japonais pour enfants, écrit à la base par Eiko Kadano, qui est paru pour la première fois en 1985. D'ailleurs, au départ, cette idée a fortement déplu à l'autrice du conte original qui a finalement capitulé et autorisé la réalisation du film, Dieu merci, en imposant certaines choses comme par exemple les clochettes dans les arbres pour le départ de Kiki. Qui ajoute effectivement un petit côté magique et enchanteur au film et surtout à cette scène mythique, entre guillemets. Grâce au succès du film, d'ailleurs, l'autrice a pu écrire deux nouveaux tomes sur les aventures de Kiki. Donc, le synopsis, le pitch en 2-3 lignes. Kiki raconte le parcours initiatique que doit réaliser une petite fille de 13 ans pour devenir une sorcière comme sa maman. C'est évidemment une métaphore du passage de l'adolescence à l'âge adulte.
Tu as tellement grandi. Où est passée ma petite fifille ?
En effet, son univers offre de vraies leçons de vie et dans beaucoup de ses films, les enfants font souvent une sorte de baptême de l'air, un apprentissage approfondi chez les grands, les adultes quoi. Et là, Kiki doit passer un an dans une ville inconnue pour devenir adulte. C'est d'ailleurs le lot de toutes les sorcières de son âge.
Tu voudrais quel genre de ville ? Une grande ville ? Un endroit où il y a la mer ?
Dans ce film, comme dans beaucoup d'autres, Hayao met ses héros face à leur destin. Kiki crée alors un service de livraison rapide par les airs, car son réel pouvoir magique est sa faculté de voler. Elle fait alors de nombreuses rencontres qui l'aident dans son intégration et son apprentissage de l'indépendance. Sa quête d'indépendance, justement, est un thème principal du film. Kiki, adolescente insouciante au début du récit, gagne peu à peu en indépendance et en confiance en elle. Il n'y a nul méchant ou confrontation avec le monde extérieur. Kiki ne se rebelle pas contre ses parents, qui la soutiennent ou une quelconque autorité. Elle n'est confrontée à aucune situation extraordinaire. Au contraire, son passage à l'âge adulte n'est rythmé que par les excitations du quotidien, n'étant même pas épargnée par l'ennui typique de l'adolescence. Parce que Kiki s'ennuie, se pose des questions existentielles. On le ressent, on se les pose avec elle, ces questions. Comme tout enfant qui grandit, Kiki doit faire face à des succès, mais aussi des petites désillusions, surmonter divers problèmes et ainsi apprendre à vivre et à grandir. Ses soucis peuvent être d'ordre purement matériel, comme le besoin de travailler pour gagner de quoi vivre, ou bien intérieur, comme le manque de confiance en elle. L'aspect le plus important de l'apprentissage de Kiki, c'est l'indépendance. En effet, Miyazaki insiste beaucoup sur les tracas d'argent de Kiki au début du film et son besoin prégnant de gagner sa vie. Il s'agit pour le réalisateur de présenter l'évolution de Kiki de la façon la plus réaliste possible. Son modèle, ce sont les adolescentes tokyoïdes toutes confrontées à leur manière au passage à l'âge adulte, et donc à la question de leur indépendance. La quête de soi apparaît comme un thème tout aussi important que l'appréhension de l'indépendance et permet un questionnement social. Comment Kiki peut-elle se réaliser dans la société ? Selon le réalisateur, nombre de jeunes femmes japonaises souffrent d'un dénuement spirituel, quand bien même elles auraient acquis succès et indépendance matérielle, car l'important pour elles reste avant tout de trouver leurs propres talents et leurs identités pour s'intégrer dans une nouvelle communauté. Une des raisons pour laquelle j'adore ce film en particulier, c'est parce qu'il traite de l'émancipation des jeunes filles. En effet, le scénario se démarque de nombre de dessins animés par le choix d'une jeune fille comme protagoniste du voyage initiatique. Les thèmes de l'autonomie, la confiance en soi, la nécessité de gagner sa vie ou la planification de son avenir sont fréquemment présentés à travers de jeunes garçons plutôt que des filles. Et dans la plupart des cultures traditionnelles, notamment en Japon, il est inhabituel pour une fille de 13 ans de partir seule dans un lieu étranger pour s'établir professionnellement et apprendre l'indépendance, thème généralement masculin au cinéma. Miyazaki inverse les codes de nombreux récits de passage à l'âge adulte en remplaçant le héros par une héroïne, donnant une tonalité originale à son histoire. Clin d'œil final de ce renversement des rôles, c'est Kiki qui secourt son ami Tombo à la fin de ce film. À la différence du schéma classique de conte de fées, où c'est souvent le jeune homme qui sauve la princesse perdue dans un donjon, et souvent il y a même un dragon dans l'histoire. Par la force de caractère et l'obstination de Kiki, le film diffère aussi des mangas pour adolescentes ou l'époque où les jeunes filles sont souvent enfermées dans des rôles passifs ou plutôt idéalisés. Les autres personnages du film, depuis Ursula qui mène une vie d'artiste un peu marginale à la figure maternelle d'Osono, peignent différentes possibilités pour les femmes de vivre en société. Le film respecte en partie les conventions de genre dans la construction des personnages. Ainsi, Tombo apparaît généralement suractif et expansif, là où Kiki est plus réfléchie et introspective. Cette différence se ressent aussi via le lien au monde et à la nature. Le pouvoir de Kiki est comparé par Ursula à une énergie intérieure et spirituelle, c'est-à-dire intimement liée à la nature, là où machine volante de Tombo repose sur la force physique et la mécanique. Miyazaki respecte donc les différences de caractère et d'aptitude traditionnellement associées aux garçons et aux filles, mais veille à ce que chacun ne prenne l'ascendant sur l'autre, notamment socialement. De plus, quand Kanta, dans Mon voisin Totoro, Tombo n'apparaît pas comme le protecteur de Kiki, car les jeunes filles miyazakiennes s'émancipent, mais il est bienveillant envers elles et persévérant dans ses tentatives de lui montrer son amitié, voire même son amour parfois. Le vol, au sens de voler dans les airs évidemment, est important dans le cinéma de Miyazaki et vecteur d'enthousiasme. Il apparaît comme central dans le film. Il s'agit d'un clair symbole d'émancipation pour plusieurs personnages féminins du réalisateur, notamment Nausicaa dans Nausicaa la Vallée du Vent, Fio dans Porco Rosso et enfin Kiki dans Kiki et la Petite Sorcière. Un moyen pour elle de surmonter les limites physiques et sociales auxquelles les filles doivent faire face. D'ailleurs, la crise de confiance de Kiki se matérialise par la perte de la faculté de voler. Enfin, la diminution progressive de la complicité de Kiki avec son chat Gigi qui part voler et perd sa faculté de parler avec sa maîtresse symbolise dans le film la perte de l'innocence de la jeune fille, indispensable pour embrasser la vie d'adulte et ses responsabilités. Le film est disponible sur différentes plateformes de streaming, notamment Netflix, donc n'hésitez pas.
Ouais, c'est vrai, je me souvenais pas qu'il était... J'avais souvenir d'un film vraiment pour enfants, du coup c'est génial, je découvre une autre facette du film. Mais c'est souvent qu'il bouscule l'école. Moi j'ai souvenir du Château ambulant, où ouais. pour la première fois de ma vie, jamais j'avais vu un film où l'héroïne est une mamie.
Oui.
Vraiment, c'était jamais arrivé.
Mamie avec des tresses qui plus est, il me semble.
Ouais, j'ai trouvé ça génial.
Oui, c'est vrai qu'il n'hésite pas à bousculer les codes et surprendre.
Ouais, ouais, ouais. Et du coup, le lien est presque tout trouvé avec le débat qui va suivre, parce que Miyazaki est aussi pas mal engagé au niveau écologie et environnement avec ses films, surtout.
C'est vrai.
Ouais, surtout avec Princesse Mononoke.
Oui, c'est vraiment un de ses thèmes favoris, je dirais, et récurrents. Dans beaucoup, beaucoup de ces films,
ouais.
L'environnement. Ouais.
Bah, du coup, on va parler de l'impact environnemental du cinéma.
Jarvis, drop my needle.
C'est une bonne situation, ça, Scree.
Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Le cinéma n'est pas du tout neutre au niveau impact carbone. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a d'abord les tournages.
Oui.
Tournage qui pollue beaucoup. Alors,
oui, j'ai pas des tellement. Ouais,
on a beaucoup entendu parler des tournages avec plein de bagnoles, enfin des trucs avec.
Oui, et puis même moi j'avais une petite anecdote sur un tournage de Abdelatif Kechiche.
Ah, lequel?
Il me semble que c'est Mektoub My Love ou No Canto, donc le premier volet des Mektoub. Et il avait fait organiser un voyage pour tourner une scène au Portugal en embringuant toute l'équipe avec lui. Et finalement, la scène a été coupée au montage. Ouais, voilà, un exemple typique de...
Exactement. Et alors, il y a ça, il y a le... Ce qui, en fait, ce qui pollue le plus dans un tournage, c'est les déplacements liés au tournage.
Ah oui, oui, c'est impressionnant.
Mais après, il y a aussi tout ce qui est logistique. Il y a eu... on connaît très bien cette scène de... la scène d'introduction de Apocalypse Now.
Oui.
Où ils ont utilisé... Alors, j'ai le chiffre exact que je vais vous retrouver. Mais ils ont utilisé 4500 litres d'essence avec des pneus pour brûler une forêt de palmiers. C'était énorme.
Ouais.
Il y avait la scène. Alors non, c'est pas une scène, mais c'est pour le tournage de un long dimanche de fiançailles où là, la Warner a voulu tourner sur un site protégé et donc il y avait des associations de protection de l'environnement qui étaient fort mécontentes. On peut les comprendre. Et il me semble qu'ils ont trouvé un arrangement et ils ont dû trouver quelque chose histoire de compenser, style comme Leonardo DiCaprio avec Before the Flood, où lui pour le coup il a beaucoup pollué, mais ils ont lavé ça en disant voilà, on a planté des arbres en gros pour compenser. Donc c'est mignon, mais ça compense pas le fait qu'on a quand même rejeté du CO2 pendant ce temps-là, quoi.
Ouais, juste un petit exemple du coup pour le film de Dark Knight Rises, donc un des volets de Batman qui a été réalisé par Christopher Nolan. Un hôpital a été construit juste pour tourner la scène où il explose quand même.
Ouais, ça, alors après, fort. Je connais quelqu'un en école de cinéma qui m'expliquait que ce genre de pollution, ça touche vraiment que les gros studios et les grosses productions qui ont vraiment de l'argent à dépenser là-dedans.
Ah oui, oui.
Parce que sinon, pour les plus petits...
oui, parce qu'il y a quand même 250 studios, millions de dollars de budget. Donc,
ouais, c'est ça. Les plus petits studios, ils peuvent pas se permettre. Alors, en général, les décors sont réutilisés, on se passe les costumes. Enfin, même... J'ai même souvenir que sur... le film Mon Inconnu avec François Civil, au début, il est plus jeune et donc après, il vieillit. Et donc, quand il est plus jeune, il a une perruque. Et bien, la perruque qu'il porte, c'est la perruque de Jacouille dans les...
C'est pas vrai.
Si. C'est la perruque de Jacouille dans Les Visiteurs.
C'est
donc,
pas
comme
vrai.
Comme quoi, même ce genre de production se passe le matériel. Et il y avait Matrix aussi.
Oui, ça, j'ai vu.
Les décors en bois, tous les décors en bois de Matrix.
Ils ont été réutilisés, recyclés.
Ouais, mais alors, pour le coup, ça fait un peu... Enfin, selon moi, je trouve que ça fait un peu greenwashing parce qu'ils ont vraiment fait de la com' là-dessus pour dire qu'on avait construit des logements pour des familles à bas revenus au Mexique.
D'accord.
Avec le bois des... Bon, je sais pas ce que t'en penses après, mais moi, je pense que ça... Enfin, je trouve que ça fait aussi un argument pour laver l'image de...
Ah oui, oui, bah, de toute façon, je pense que
Dès qu'il y a de la com' à faire sur
quelque
chose...
Ouais, exactement. Ouais, ils en profitent, ouais.
Après, est-ce que ça vaut le coup ? Enfin, je veux dire, pourquoi pas ? Peu importe,
il y a rien de négatif là-dedans. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, ça profite. Bon, après, c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais visiblement, ça profite, ouais.
C'est clair.
Après, il y a un autre aspect, qu'on peut aborder, c'est DVD ou streaming.
Oui, j'ai vu que le streaming, c'était ultra.
Ouais, moi j'ai les chiffres.
Polluant.
J'ai les chiffres de 2019 qui viennent de d'un institut, enfin d'une asso non gouvernementale qui s'appelle The Shift Project. Et donc en 2019, la vidéo en ligne, donc ça comprend pas que le streaming cinéma, on va dire, mais toutes les vidéos en ligne, a généré plus de 60% des flux de données mondiaux. Et donc ça représente environ 30 millions de tonnes de CO2. Et donc en gros, c'est la quantité de CO2 que peuvent absorber les océans en 12 ans.
Ah oui, non, mais c'est impressionnant.
C'est impressionnant. Alors après ça, on peut objecter que oui, les DVD, le plastique, etc., etc. Mais c'est très clair, le streaming pollue plus qu'acheter un DVD et plus que télécharger un film.
Ah ouais, aussi.
Il vaut mieux télécharger le film que le regarder en streaming.
D'accord.
Donc là, se pose la question de Netflix et Amazon Prime.
On peut télécharger certains films sur Netflix.
Ouais.
Je sais, pour les avoir hors internet, quoi.
Ouais.
Pour qu'ils restent disponibles.
Et oui, donc ça, c'est une autre question encore, mais bon, je sais pas si t'as des choses à ajouter là-dessus.
Non, pas vraiment, c'est vrai qu'on essaye tous de faire des efforts, je pense, mais...
On se rend pas compte de l'impact du streaming au niveau environnement, on pense que c'est immatériel, tout ça, mais en fait, on se rend pas compte qu'il y a les data centers, et tout ça, c'est matériel.
Oui, évidemment, évidemment. Mais après, quelles autres alternatives on pourrait trouver à ça ?
Bah déjà, je pense que...
Le téléchargement, c'est moindre ?
Ouais, c'est moindre. Le problème, après, on pourrait régler deux problèmes en un problème. Si on achetait les DVD ou on allait au cinéma ou on payait nos téléchargements, déjà, on en téléchargerait moins. Oui. Et ensuite, on paierait, on paierait le cinéma, en gros, parce que le streaming, le téléchargement
illégal. Mais c'est tellement accessible maintenant, je veux dire, c'est tellement démocratisé, le fait de télécharger illégalement, c'est...
Ouais, mais et c'est un autre problème en plus. Oui. Donc ouais. Alors après sur le web, c'est ça, le moyen de regarder les films. Bon, je vois pas bien ce qu'on pourrait faire pour réduire l'impact du cinéma. Vraiment là où ils peuvent jouer, c'est sur les tournages. Et il y a pas mal de choses qui se font. Il y a des sociétés comme donc il y a Sequoia Productions et Ecoprod qui ont pas mal bossé là-dessus. Mais ça, pareil, je sais pas trop quoi en penser parce que donc le type que je connais qui est en école de cinéma. Me disait que bon, c'est pas la majorité des productions, en tout cas en France, qui manquent de budget. Et là, pour le coup, eux, leur plus gros poste de pollution, c'est les gobelins plastiques, les éclairages aussi, les LED. Il y en a qui ont mis pas mal de LED pour essayer de réduire un peu la consommation électrique.
Même les gobelins en plastique, on peut remplacer par des éco-cups, c'est quand même.
C'est pas compliqué, on est d'accord. Ouais.
Tout le monde est à même de le faire, oui.
Et après, faut que... Ouais, en fait, l'argument intéressant, ce serait de dire que ça ferait faire des économies financières, quoi.
Parce que ouais.
Je pense que c'est clair.
J'avais trouvé des petits chiffres, là, sur la quantité de CO2 produite selon la durée du film ou de l'émission. Une heure d'émission télévisuelle correspond à 10 tonnes d'équivalent carbone. Un épisode d'une série tournée à Paris produit 35 tonnes d'équivalent carbone.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, c'est quand même impressionnant. Une fiction tournée en France produit 200 tonnes d'équivalent carbone et un long métrage 1000 tonnes.
Ouais, en sachant que.
Multisite, donc ça veut dire sur.
Ouais, c'est pas ça, sur plusieurs, plusieurs endroits. C'est intéressant de savoir que 1 million de tonnes de CO2, ça équivaut à peu près. Enfin, non, une tonne de CO2, c'est le volume produit par une personne en moyenne dans un pays industrialisé par mois.
Ah ouais.
Donc on se rend compte un peu ce que ça donne. C'est pas négligeable, c'est clair. Alors après, il y a un truc qui commence à arriver, mais là je pense que c'est plus aux États-Unis. C'est un nouveau poste, c'est le, comment on appelle ça, l'éco-manager. Il y a plusieurs noms, mais en gros le type qui est là et qui sert un peu à dire aux gens.
Ça c'est pas écolo.
Voilà, c'est ça. Limitez votre consommation de gobelets en plastique, s'il vous plaît. Alors je sais pas bien quel est son rôle et j'ai l'impression que c'est un peu gadget. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, ça a l'air un peu surfait, mais après, venant des Américains, plus rien ne m'étonne.
C'est ça. Ouais, en France, en tout cas, c'est pas encore démocratisé comme poste. Après, ce serait pas idiot. Je veux dire, au niveau de la post-prod, enfin de la pré-prod, s'il y a quelqu'un qui soit vraiment calé là-dedans.
Ah oui, oui. Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien de négatif, entre guillemets. Et moi, ça me fait un peu penser au mec qui vient et qui dit arrêtez de boire dans des gobelets en plastique alors que... Je veux dire, maintenant, si on n'habite pas dans une grotte, tout le monde sait que le plastique, c'est plus fantastique.
Non, mais après, ou ça pourrait être un type qui, en amont, essaie de réduire les... ou de, comment on va dire, rentabiliser les trajets, qui il se charge de trouver des éco-cups, enfin...
Oui, évidemment, après, c'est pas englobé beaucoup de choses. Hein, donc, évidemment, s'il travaille sur les transports, s'il travaille sur les lumières, sur tout le matériel même qui peut être utilisé, trouver des alternatives, tout ça, c'est quelqu'un qui est vraiment calé. Évidemment que ça peut être super intéressant.
Hein. Ouais, je pense que ça peut être bien d'avoir ce type de poste en pré-prod
pour
laisser un peu tout le reste de l'équipe
cool là-dessus. Pour que ce soit prêt, quand tout le monde arrive, évidemment.
Ouais, en tout cas, il y a du boulot. Hein. Je pense qu'on peut dire qu'il y a du boulot. On n'est pas encore au Green Cinéma. Mais il y a quelques festivals qui récompensent les films qui ont vraiment fait des efforts.
Ah, je savais pas
ça. Il y en a un à Deauville, c'est le Deauville Green Festival. Mmh. Et il y a aussi le Green Seal EMA Award. C'est un truc aux États-Unis, du coup. Et ils ont récompensé Black Landsman, d'ailleurs, de Spike.
Ah, bien.
Ouais. Donc, parce qu'ils ont recyclé notamment tout leur... les vêtements, les surplus de nourriture, ils les ont donnés. Et ils ont fait tout leur éclairage OLED.
Voilà. Ah ouais,
impressionnant. Ouais. Mais il y avait aussi Mamma Mia 2, des films auxquels on ne pense pas forcément. Hein. C'est un film pas...
Oui, j'ai vu ça.
Ouais. Enfin, franchement, le film, on peut en dire beaucoup de choses. Hein. C'est un film très commercial. Et pourtant, ils ont pris le parti de faire des efforts. Ils n'ont pas énormément communiqué dessus, d'ailleurs.
C'est vrai que j'en ai pas vraiment entendu parler.
Donc ça, c'est assez louable, je trouve.
Oui, c'est vrai qu'ils ont... Enfin, Mamma Mia, le deuxième, 99% des déchets produits ont été réacheminés. Et pour réduire les émissions de carbone, les chauffages ont été alimentés avec du biodiesel.
Ouais,
fabriqué à partir de l'huile de cuisson usée.
Comme quoi, quand on veut trouver des idées, on en trouve.
Ouais.
Mais moi, je maintiens que... les films à moindre budget ont un impact écologique moindre, mais vraiment moindre.
Ah oui, oui, évidemment. Oui, ça veut dire que les grosses productions... Oui, oui, oui.
C'est possible.
Oui, oui, c'est possible, oui. Mais après, ça veut dire qu'on ne regarde plus des Marvel, on ne regarde plus des productions énormes. C'est ça,
Ah ouais, voilà. Non, mais, ah oui, là, par contre, par contre, ce serait difficile.
Il faut choisir.
Ouais, alors est-ce qu'on pourrait... Non, est-ce qu'il est possible de réduire ? Non, impossible. On ne peut pas couper si on veut une cascade en voiture. Il faut une voiture.
Oui,
il faut casser la voiture.
Oui, oui.
Malheureusement.
Continuer à brûler des hôpitaux, brûler des voitures.
Ouais. Ou alors, il faut compter sur les effets visuels de plus en plus... efficace.
Ah oui, oui, évidemment.
Ça pourrait remplacer.
Les effets vidéo, oui, oui.
Bon, en estimant l'impact écologique de ces effets, en espérant qu'ils soient un peu moins...
Rouler avec des voitures électriques, sinon.
Moins grave. Ouais, mais alors, tu vois, la course-poursuite en Zoé, je... moyennement. Je le sens pas tellement. Non, mais à voir, pourquoi pas, hein. Bah, on sait pas ce que l'avenir nous réserve.
On sait pas. Bon. Mais on a de l'espoir.
Oui, toujours, ouais. C'est ça qui est bien. On refera une émission dans 10 ans. On verra où on en est. Est-ce que les Zoé auront une tête d'alpine pour pouvoir faire des super cascades ? Bon, c'est pas tout, mais ça donne soif de discuter. Donc, je propose une petite pause, le temps de se réhydrater. On va écouter Everybody Knows de Leonard Cohen. Donc, c'est une musique qu'on a pu entendre dans le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Now or never, everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman. fire knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody knows. Everybody knows.
Vous êtes toujours sur Radio Couleur Chartreuse et c'est l'heure de Ça tourne, votre nouvelle émission de cinéma avec Élise. Bonjour Élise, tu es toujours là ?
Oui, je suis toujours là.
Une chroniqueuse de talent et notre poisson technicien Lucas qui est toujours dans son aquarium.
Il fait coucou, il est vivant aussi.
Bon, alors il est 11h presque 40 normalement et c'est le moment de jouer. Élise, est-ce que tu es prête ?
Veux-tu connaître mon secret pour gagner ?
Beaucoup d'entraînement ?
Non, mon garçon, des dépipés.
C'est de la triche.
Uniquement si tu te fais prendre.
Je suis prête.
Donc Lucas nous a préparé un petit blind test. J'ai l'impression qu'on va jouer l'une contre l'autre, du coup. Hein voilà. Est-ce qu'on compte les points ?
On compte les points, évidemment.
Oui, on compte les évidemment. Points. Parce qu'on joue pour gagner, oui. Évidemment. Je suis imbattable jusqu'à ce jour. J'espère que je vais le rester. On est parti pour le blind test. Alors nous, on a les réponses. Donc on ne va pas tricher, promis, on ne triche pas.
On a les réponses, mais elles sont cachées, précise-le.
Voilà, c'est ça. Voilà. Lucas, peux-tu lancer
Lucas
le blind test ?
Lucas nous a fait un petit papier très gentiment.
Tu as perdu la tête !
Ils m'ont énervée.
Énervée ?
Réponse.
Tu te rends compte que tes actes retombent sur nous tous ici présents ?
Ça ne me dit rien, mon
Dieu. Juste
voulez du spectacle, c'est fait.
Au secours !
Et les mauvaises manières, Sina ! Qu'est-ce que tu...
Ah non, c'était Hunger Games ! Je ne savais
oh
pas.
Oh là là, j'ai pas du tout reconnu.
Oh, tristesse. Bon, allez, zéro.
Pourtant, c'était... Comment c'est Kathleen ?
Ouais.
Kathleen Everdeen. Kathleen Everdeen.
Bah allez, au suivant. Oh là.
Un loup ?
Non, c'est moi.
Non, la réponse, c'est un nom de film. Ah non, là, non, je ne sais pas. Oh non, mais c'était Le Seigneur des Anneaux. Mais il n'y a pas eu assez de son.
Ouais, il n'y a pas assez de son.
C'est pour ça.
Pas un mot.
Les mauvaises joueuses.
Ah bah voilà, il y aurait eu la musique, j'aurais trouvé.
Vous me condamnerez pour le crime que j'ai commis.
Alors je vous demande. La ligne verte. La ligne verte.
Qu'est-ce qu'un crime ?
Qu'est-ce donc ? On est
ce qui est légal aujourd'hui est illégal demain parce que la bonne société dit que c'est ainsi.
Est-ce que je l'ai vu ? Puis, non, je l'ai pas vu.
Ce qui était illégal hier devient légal parce que.
Bon, on n'est pas bonne, hein, zéro.
King of the Britons. I seek the finest and the bravest knights in the land to join me in my court at Camelot.
Ah, alors c'est attends, Camelot, je le sens bien. Camelot ou pas Camelot?
You have proved yourself worthy. Will you join me? You make me sad. So
alors,
be it.
Brave Earth.
Come, Patsy.
Ouais. Ça m'étonnerait.
None shall
mais l'accent n'est pas là.
What? None shall
non, mais ça a l'air
pass.
Très drôle.
Oh, oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles alone.
Oui, c'est Doc, Retour vers le futur.
Oui. Ah, non, elle a un point.
C'est Doc.
Bien vu.
Vous avez désintégré Einstein.
Calme, oh, Agnès, c'était long.
Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu?
Oui, mais voilà. Mais
vous dites
Doc,
que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps.
Voilà. Oui.
Allez, suivant.
j'entends une chose approcher. Une chose qui a soif de sang.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le démon Gorgon.
Stranger Things.
On est trop dans la merde.
C'est pas un film,
ouais,
mais...
j'ai pas vu, moi.
Il faut qu'on y aille.
Exact.
Bien. À plus.
Bien. Allez, salut,
deux points. Tu notes, hein.
Nous ne pourrons plus le récupérer.
Quelle certitude as-tu?
Oh, je sais. Je sais. C'est
pas avec toi, rien n'est jamais possible.
Oui, c'est Star Wars, merci.
Ouf, j'ai jamais vu Star Wars.
C'est totalement différent.
Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
Dans trois semaines, je moissonnerai mes terres.
Ah oui, Gladiator.
Imaginez où vous voudriez être.
Est-ce Gladiator ou pas?
T'es tellement rapide.
Trop rapide, et c'était Gladiator.
Et c'est un Gladiator.
Ouh, de partout.
Restez non, avec moi.
Trois,
si vous vous retrouvez tout seul.
De partout.
Chevauchant dans de verts pâturages avec le soleil sur le visage.
Personne ne passera sous la vie.
N'en soyez pas troublés.
Suivant.
Vous avez volé à Krasnis Molaklos, restera ici pour être de nouveau vendu sur un marché. Les dragons actuellement sous la grande pyramide seront mis hors d'état de nuire.
Alors,
je reconnais même pas la voix.
Moi non plus. Pas été assez clair. Alors là. Alors, est-ce que ce serait pas par pur hasard Game of Thrones? Parce que ça parle de dragons, mais j'ai pas réussi à voir toute la série, donc...
J'aurais dit le marché de Wall Street, moi.
Votre règne est terminé.
Ouais,
pas du
ouais,
tout, pas du tout.
Mon règne
ouais,
de
fait. Game of Thrones, trop fort. Ma maman
j'ai jamais vu plus de 3 épisodes. Tu vois bien.
Hier, aujourd'hui et demain ne se succèdent pas. Ils sont connectés dans un cycle.
T'as Inception ?
Oui !
Inception.
Je me sens bien.
Ah non, pas du tout. Mais alors, pas du tout.
Dans la petite ville de Vinden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et l'inquiétude des habitants est montée d'un cran depuis la disparition d'un second enfant.
Aucune trace, rien.
Ça me dit rien du tout.
C'est un mystère.
C'est comme s'il s'était volatilisé.
Hey, tu viens jouer à Chifourmi avec...
Eh ben écoute, à voir. Je connais pas Dark. Bon, on en est où pour les points du coup là? J'ai pas...
Oh là là, 2-2 il me semble. Ah non, deux
partout.
Attends, écoute, tu veux...
J'ai eu un point avec Game of Thrones, quand même.
Oui, mais ça fait 2 avec Gladiator.
Exact, et 3 avec la Guerre des Étoiles.
Oh
hey, hey. On en est à 3-2.
3-2.
3-2, il faudra que tu remontes au prochain épisode.
Oui.
Et du coup,
la vengeance sera terrible.
Aïe, 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 j'ai peur. Le temps passe vite et c'est déjà la fin de sa tourne, c'est fou.
C'est fou, c'est fou, c'est fou.
C'est
fou.
Fou.
Est-ce que ça t'a plu?
Oui.
Oui.
Oui, oui, oui.
Lucas, est-ce que ça t'a plu? Oui.
Lucas dit oui. Lucas est toujours vivant, il dit oui.
On peut lui faire dire ce qu'on veut. Mais il approuve, et j'espère que vous aussi, ça vous a plu derrière votre poste ou votre ordinateur, je ne sais pas. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, vendredi, hein, sur Radio Couleur Chartreuse, même jour, même heure et même équipe. Comme on dit sur un plateau, coupé.
Coucou, 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 on tourne.
Ça filme. Go, 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 ça tourne.
C'est le problème avec les forêts, parce qu'on croise beaucoup d'arbres.
Go, ça tourne. Go.
C'est bon, ça tourne.
Ouais.
I take orders from just one person, me. Thank you.